disait qu'il était, ayant été en montagne, il était émerveillé de Dieu et de tout ce qu'on pouvait y voir de magnifique. C'est vrai. Et puis, moi, je me disais, je suis aussi émerveillé par l'intelligence et les dons que Dieu a donnés à certains hommes pour construire des téléphériques et des funiculaires qui nous permettent de monter bien haut de la montagne. Voilà. Alors, ce matin, je ne sais plus sur quel. Peut-être celui-ci. Ah, voilà. J'ai même donné un titre, mais c'était hier, peut-être que ça va changer un peu aujourd'hui. Marcher avec foi, hardiesse et humilité, car nous sommes un peuple élu. C'est un peu le résumé de ce message. J'ai beaucoup de temps pour en parler, hein, puisque nous avons une courte louange, mais je ne vais pas abuser. Nous allons lire, ce matin, je vous propose de lire deux textes dans le livre du Deutéronome, livre que l'on lit régulièrement, n'est-ce pas, qui est le cinquième livre de la Bible, de la Torah, et qui se présente sous la forme d'un discours de Moïse, dans lequel il va encourager, exhorter le peuple d'Israël. On est à la veille d'entrer dans le pays promis, et Moïse ne va pas y entrer, comme vous le savez, mais il encourage encore le peuple, il leur fait des recommandations, et puis également il repasse tout le trajet que le peuple a fait dans le désert, il rappelle également les lois que Dieu avait données. Alors, nous allons lire tout d'abord dans Deutéronome, chapitre 9, versets 1 à 6. Deutéronome 9, 1 à 6. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, des descendants d'Anak que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire « Qui pourrait résister aux descendants d'Anak ?» Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera, il les humiliera, je ne sais jamais, devant toi et tu les chasseras, tu les feras disparaître rapidement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les aura chassés devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de ta droiture de cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire ou au cou raide qui ne se laisse pas conduire facilement. Et puis un deuxième texte, dans le chapitre 7 de ce même livre du Deutéronome, au verset 1, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait bien vite. Voici au contraire comment vous agirez avec eux. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs poteaux sacrés et vous livrerez aux flammes leurs sculptures sacrées. » Et on continue au verset 6. « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu vous tenir, il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. Voilà. Alors on pourrait se demander, mais bon, ok, c'est sympa cette histoire qui se passait il y a plusieurs siècles en arrière, bien avant la naissance de Jésus. Est-ce que ça a quelque chose à nous apporter aujourd'hui? Ben, vous pensez bien que oui, si j'ai choisi ces textes. Paul dit aux Corinthiens que toutes ces choses sont arrivées. Pourquoi? Pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors je vais m'arrêter sur un ou deux points. Tout d'abord, si on se replace dans le contexte, donc le peuple d'Israël, après avoir été délivré miraculeusement du pays d'Égypte et du pharaon qui le tenait en esclavage, a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont marché. Pourquoi? Parce que les espions qui étaient partis, qui avaient été envoyés en mission pour explorer le pays, sont revenus en disant « Oui, c'est un pays fantastique, c'est vrai, mais il y a des géants, ils ont des villes fortes, ils sont trop nombreux, on ne va jamais pouvoir les battre. » Et puis là, eh bien, tous ceux qui avaient connu cette période, maintenant sont morts. Donc, si c'était nous, tous ceux de plus de 40 ans parmi nous, lorsque cela se passe, eh bien, nous serions morts. Et il resterait les plus jeunes qui seraient là, qui ont connu que le désert jusqu'à maintenant. Ils ont connu que le désert, ils ont connu l'Égypte par les récits de leur père. Et là, voilà que Dieu leur dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus nombreuses que toi. Vous vous rendez compte? Écoute Israël, et quand en hébreu on dit écoute, ça ne veut pas dire, ah ben écoute, ouais, j'ai entendu quoi. Ça veut dire obéis. Mets en pratique ce que je suis en train de te dire. Mets-toi en route, mets-toi en mouvement. Et là, Dieu dit par la voix de Moïse d'entrer dans ce pays qui vont devoir affronter des nations qui sont beaucoup plus puissantes que lui, qu'ils vont devoir battre des géants dont il est dit que personne ne peut les battre et qu'en plus, ils ont des villes fortifiées jusqu'au ciel. C'est un beau programme, hein? C'est un beau programme. Alors certes, après, on voit bien que ce n'est pas possible pour ce peuple, mais c'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va détruire ces peuples, c'est Dieu qui va intervenir comme un feu dévorant. Néanmoins, les Israélites ne vont pas rester dans leur fauteuil à côté du Jourdain. Tranquillement, ils vont passer le Jourdain, et puis ensuite ils vont s'asseoir, et puis ils vont attendre que Dieu chasse tout ce monde. Non, Dieu les bat, va les défaire, va les humilier, mais c'est le peuple qui va les chasser et qui va les faire disparaître. Donc le peuple va devoir se mettre en marche. La victoire est acquise à Dieu, mais c'est le peuple qui va devoir les battre. C'est le peuple qui va devoir les éliminer. Et ce qu'on va voir, c'est que si on lit les livres suivants, le livre de Josué, et puis après le livre des juges, et puis après on a encore des récits plus courts dans la suite, dans Samuel, eh bien, on voit qu'ils n'ont pas éliminé tous ces géants, qu'ils n'ont pas éliminé tous ces peuples. Ils devaient les exterminer, ils ne l'ont pas fait. Eh bien, on voit que ça va causer des très gros ennuis au peuple d'Israël par la suite. Alors, c'est clair, on peut se dire, bon, mais Dieu est avec eux, cool, quoi. Cool, oui, mais il faut se mettre en route, il faut aussi que nous puissions nous mettre en mouvement. Et ça, pour nous, eh bien, nous avons aussi nos géants dans nos vies. J'imagine qu'on en a tous. Des géants, c'est-à-dire, c'est des problèmes, des péchés, des comportements peut-être, des raisonnements intellectuels aussi qui nous empêchent d'aller de l'avant dans notre vie avec Dieu, des dépendances, des émotions qui nous gouvernent. On est vite gouverné par des diverses émotions. Ça peut être la peur, ça peut être une grande émotivité, ça peut être la colère aussi que l'on n'arrive pas à contrôler, ou encore d'autres choses. Ces géants, c'est quelque chose qui va semer en nous le désarroi. On n'arrive pas à les surmonter. Ça peut entraîner le désespoir aussi. On se dit, mais toujours, quand je me retrouve dans cette même situation, il se passe la même chose, je m'énerve. Je m'énerve avec mon conjoint peut-être, parce qu'il a une certaine façon de parler qui peut-être m'irrite. Ou bien contre mes enfants, ou bien les enfants peuvent également vite s'irriter peut-être contre les parents. On a en nous, puis on se dit, ah mais Seigneur, aide-moi, aide-moi, viens enlever la colère qu'il y a en moi, viens enlever tout ça, et puis ça reste. Et puis on se dit, mais finalement, est-ce que Dieu m'accepte encore? Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu me pardonne encore? Ça peut être des comportements compulsifs, ça peut être beaucoup de choses. Hein. On regarde des choses que l'on sait qu'on ne devrait pas regarder, ou on lit des livres qu'on sait très bien qu'on ferait mieux de ne pas lire. On voit des gens que l'on sait très bien qui ont une mauvaise influence sur nous, puis on continue. Voilà, ça peut être des géants dans nos vies. On se dit, à quoi bon? Et puis, pourtant, Dieu aussi est avec nous. Et ça, c'est aussi la bonne nouvelle pour nous. Dieu est avec nous dans ces situations. Et ce qui est important aussi, c'est de reconnaître que l'on a des géants dans nos vies. C'est de ne pas faire comme si tout allait bien. Des fois, on est comme ça, oui, tout va bien, grâce à Dieu, tout va bien. Puis en fait, ça ne va pas si bien que ça, au fond de nous-mêmes. Il y a peut-être de la tristesse, il y a des choses qui nous accable. On dit oui, grâce à Dieu, merci Seigneur, tout va bien, merci parce que tu as remporté la victoire, alléluia. Puis dans nos vies, on est déchirés, on est mal. Alors reconnaissons peut-être avec des frères et sœurs que nous sommes finalement tiraillés parfois dans des situations qui sont difficiles. Ça peut être aussi, on nous a offensés une fois, on se sent blessé de manière grave. On dit, en tout cas, ça je ne veux pas pouvoir passer dessus, ce n'est pas possible. Eh bien, vraiment que nous puissions reconnaître ces géants, mais ensuite de ne pas rester là. Ce n'est pas dire, ok, je vais vivre avec mon géant. Nous ne sommes pas appelés à vivre avec notre géant. Nous sommes vraiment appelés à nous confier toujours plus en Jésus-Christ. Toujours plus. Nous sommes, il est dit que, verset bien connu, que nous sommes, Romains 6, verset 5, nous sommes une seule plante avec Jésus par la conformité à sa mort et sa résurrection. Et nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, et nous avons donc aussi été ressuscités en lui par la foi. C'est assez extraordinaire. Nous sommes, en tant que croyants, nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Alors, ok, ce sont des versets qu'on connaît par cœur, qu'on est capable de réciter, et puis on peut se retrouver toujours dans ces situations compliquées. Alors vraiment que nous puissions nous encourager les uns et les autres à aller de l'avant malgré cela. De toujours aller de l'avant, mais que nous puissions vraiment nous encourager les uns les autres à nous concentrer sur Christ, à regarder à Christ, à ne pas oublier que nous sommes une seule plante avec lui, à marcher par l'esprit aussi. On a toujours ce combat entre nous, dans nous, entre la chair et puis l'esprit. Et ça va nous occuper toute notre vie sur cette terre. On n'aura jamais fini avec notre chair. Ça se manifester différemment. Mais là, que nous puissions vraiment être, nous encourager les uns les autres, comment marcher par l'esprit, bien, en priant, en lisant la parole de Dieu, en nous entretenant de manière constructive les uns avec les autres, en étant dans la liberté de pouvoir partager nos difficultés, nos problèmes, et d'écouter les autres, et d'être encouragé par ce que les autres vivent aussi. De nous encourager par, c'est aussi Paul qui dit, de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, etc., de la nourriture qui est nourrissante pour notre nouvel homme. Et alors, nos géants, petit à petit, ça va s'estomper. Qu'on ne mette pas tout l'accent sur le géant qui est là et qui m'empêche de faire quelque chose pour Dieu, parce que ce n'est pas vrai. Même si le géant est toujours là, nous pouvons nous tourner vers Dieu et avancer avec Dieu et faire des projets avec lui. Voilà, donc soyons vraiment actifs dans la prière, soyons actifs dans notre comportement, dans notre manière de vivre, renonçons à ce à quoi nous devons renoncer. On le sait très bien. Il n'y a pas besoin de dire « Seigneur, montre-moi ce à quoi je dois renoncer » et puis on se dit « je n'ai pas de réponse de Dieu ». Ce n'est pas vrai, Dieu il nous montre et on le sait. Donc à nous, c'est là notre part. Dieu a remporté la victoire et nous devons chasser ces géants. Et puis, après, on voit que, j'ai fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire, je crois. Tant pis, si on revient à Deutéronome 7, on voit que le peuple était appelé à détruire complètement l'ennemi, complètement. Hein. Il devait mettre à mort tout le monde et puis ne pas donner de mariage, donner des enfants en mariage, merci beaucoup. Voilà. Donc il y a ces sept peuples qui sont nommés, et puis lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés, et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction, tu ne concluras pas d'alliance avec, tu ne marieras pas tes filles avec leurs fils, tu ne marieras pas leurs fils avec leurs filles, tu détruiras tout le monde, tu détruiras leurs autels, les poteaux qu'ils adorent, qu'ils vouent à d'autres dieux, à Baal, à Astarté, etc. Tout ça, il faut faire table rase. Surtout, ne les laisse pas vivre. Ça paraît extrêmement dur, hein. C'est vrai que c'est violent, hein, ce texte. Dieu, on a quelques pistes de compréhension de la parole de Dieu. Là, c'était vraiment des peuples qui étaient complètement corrompus, hein, qui offraient leurs enfants au sacrifice aux dieux, qui vivaient dans le péché le plus absolu. Et Dieu amène à les détruire. Alors nous, c'est clair que nous ne faisons pas ça. C'est évident, nous n'allons pas détruire nos ennemis physiquement. On le sait bien. Mais c'est de ne pas faire de compromis non plus avec nos péchés, même s'ils paraissent ne pas être si graves que ça. Même si on se dit, c'est pas si grave, quoi, je suis un homme, je suis une femme. Dieu, voilà, c'est pas si grave. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit, et ce qu'il nous rappelle ce matin, c'est de vraiment éliminer toute racine. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les pensées de vol, d'adultère, de meurtre, de vol, de faux témoignages, la calomnie. C'est Jésus qui dit ça dans Matthieu. Donc c'est dans notre cœur humain. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des envies de meurtre. Peut-être. Ou de vol. De vol, peut-être plus facilement. Hein, finalement, l'État nous vole bien assez, nous sous. Donc, si je triche un peu sur ma déclaration d'impôt, c'est pas trop grave, quoi. Hein, c'est de nous que ça vient. Ce sont nos pensées. Non, hein, c'est pas un conseil que je vous donne, ça. Hein, c'est ce qu'il faut éviter de faire, c'est de renoncer à tout compromis avec le péché. Et puis, ce n'est pas toujours des comportements non plus que l'on voit. Hein. C'est quelque chose qui peut simplement être à l'intérieur de nous, des pensées. Moi, j'ai réalisé que j'avais des pensées, des fois, mais ça m'a effrayé presque. Des pensées de supériorité, de racisme. Je me suis dit, mais Daniel, qu'est-ce qui se passe en toi? Je me dis que je ne dois pas être le seul. Comme ça, à part Patrick. Mais ça peut être des pensées comme ça. Et il y a un moment donné de dire, mais Seigneur, enlève de moi ces pensées. Chasse de moi ces pensées. Je ne veux pas être comme ça. Je peux paraître très bien devant vous comme ça. Hein. Bien, il cause bien, il se tient bien, il a même mis des pantalons ce matin, etc. Puis au fond du cœur, on ne voit pas ce qui se passe. Et c'est là, souvent, que se trouvent les difficultés et les problèmes. Alors, ne faisons pas de compromis. Il nous faut abattre tous ces poteaux qui peuvent devenir des idoles aussi dans nos vies, afin que nous puissions marcher d'une manière qui honore le Seigneur. Être constamment en éveil. Mais tout ça, c'est pas par nos propres forces. C'est important de le dire. Hein. C'est pas en s'auto-flagellant ou par de la pensée positive, ces pensées-là, non, vous partez, etc. C'est par un engagement avec le Seigneur, c'est dans la prière, peut-être avec des frères et sœurs encore une fois, ou la prière soi-même, avec d'autres, dans lequel on renonce à tout cela, à tout ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Et plus on avance dans la vie chrétienne, plus on se rend compte qu'il y a des choses, que les choses viennent petit à petit. Hein, on n'est pas en train de se dire, voilà, je suis arrivé. Bien que quand on croit qu'on est arrivé, prends garde à ne pas tomber. Donc nous ne sommes jamais arrivés. Nous n'avons pas les forces de lutter contre tout cela, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui remporte la victoire. Et à nous d'être actifs dans le fait de se saisir de cette victoire. Haïr le mal est une des formes de l'amour du bien. Haïr le mal. Est-ce que je hais vraiment le mal ? Ou bien est-ce que je m'en accommode? Ça va? Vous voulez faire une pause? Non? On continue. Alors, c'est dans... je ne sais plus si c'est... Mince. C'est pas ici, c'est dans Deutéronome 9. Voilà. Deutéronome 9, à partir du verset 4. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura chassé, donc ces peuples qui doivent vaincre devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Et trois fois, Dieu rappelle que ce n'est pas à cause de la justice du peuple d'Israël qu'il a éliminé ces peuples devant lui. C'est parce que ces peuples étaient mauvais, étaient méchants, et c'est parce que Dieu avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob concernant le peuple d'Israël, le peuple promis. Dieu leur dit même, il ne leur parle pas avec douceur, il leur dit, je sais très bien que vous êtes un peuple réfractaire, qui n'obéissez pas, vous allez vous rebeller sans cesse. Il y a déjà eu l'épisode du veau d'or. Hein. Toujours le peuple d'Israël a voulu ressembler aux autres peuples. Hein, en se construisant, ils ont voulu un roi, ils voulaient des dieux qui puissent voir, etc. Mais Dieu est fidèle à sa promesse et il remplit le serment qu'il a fait. Ézéchiel disait également, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, donc il va les délivrer, là il les fait revenir en Israël, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. C'est à cause de mon saint nom que je vous ramène dans votre pays. C'est à cause du serment que j'ai fait. Et pour nous, ben, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas à cause de notre intelligence, de notre beauté, de nos capacités, de notre bonne moralité, de tout ce que l'on fait de bien, etc., que Dieu nous a sauvés, que Dieu nous aime. On le sait bien. On sait bien que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Paul l'a écrit à Timothée et à Tite aussi, ça. Donc sont des choses importantes. Jésus qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, c'est-à-dire selon son propre projet. Dieu a un projet et c'est dans le cadre de ce projet qu'il nous sauve. Et puis à Tite, il écrivait, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. On ne peut rien faire pour gagner la faveur de Dieu. On ne peut rien faire. C'est par amour que Dieu, eh bien, nous sauve et se manifeste dans nos vies. Au commencement, il y a Dieu. Et ensuite, il y a l'être humain. Je crois que c'est important de s'en souvenir, même si on le connaît bien, parce qu'on voit que Paul l'écrit à ses amis, hein, à Timothée, à Tite, donc c'est quelque chose d'important. Et puis d'autre part, ben, le cœur humain, il est comme il est, et puis on peut vite se dire, ben, finalement, je ne suis quand même pas si mal, hein. Seigneur, tu peux intervenir dans ma vie. Tu pourrais me reconnaître un peu plus ce que j'ai fait. Eh bien non. Mais nous avons cette assurance que Dieu est là et qui nous aime. Donc c'est un côté qui est extrêmement reposant aussi, quelque part. Dieu m'aime. Et s'il prend soin de moi, s'il vient toucher mon cœur régulièrement, eh bien c'est parce que Dieu m'aime. C'est pas parce que j'ai prié pendant 4 heures tous les jours pendant une semaine. C'est pas parce que j'ai jeûné pendant une semaine. C'est pas pour ça, c'est parce que Dieu m'aime. Et si je prie 4 heures par jour pendant une semaine, c'est par reconnaissance envers Dieu. C'est pour, si je jeûne pendant une semaine, c'est par reconnaissance envers Dieu. Mais sinon, eh bien, c'est vraiment l'amour de Dieu pour nous. Et puis, le dernier point que je voulais soulever, alors il ne faut pas que je me trompe de côté, on a commencé par Deutéronome 9, donc c'est Deutéronome 7 qui est après. Ah, je vais trop vite. Bon, dans Deutéronome 7, depuis le verset 6, nous pouvons lire, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Et puis, etc., ce n'est pas parce que vous dépassez tous les autres peuples en nombre que je vous ai choisi, mais c'est parce que je t'ai choisi. je suis, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Et ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. C'est la même chose. On voit dans le Nouveau Testament que si on ne respecte que aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Donc, le peuple d'Israël était un peuple élu, choisi. C'est la souveraineté de Dieu qui est là. Il n'avait rien fait de spécial. Il a été, en quelque sorte, créé à partir d'Abraham et de sa famille. Et puis, eh bien, pour nous, ben c'est la même chose. Hein. Nous sommes, Pierre écrit dans 1 Pierre 2,9, vous, donc c'est nous, hein, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des prêtres, nous sommes appelés, nous sommes élus par Dieu, nous sommes même nommés des prêtres royaux. Voilà, on a des beaux habits. Tout cela pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Donc voilà, une fois de plus, ce n'est pas pour les qualités propres de l'Église que Dieu s'est acquis l'Église. Il connaît les faiblesses, il sait que l'Église est faite d'êtres humains, mais c'est par amour et c'est parce qu'il a un plan, c'est dans son projet de sauver l'humanité, le projet de son royaume qu'il nous a rachetés. Jésus qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Et là aussi, souvenons-nous vraiment qu'au commencement, il y a Dieu, que Dieu a créé toute chose, est à l'origine de toute chose, il nous a créés, il est à l'origine de notre salut, il est par amour, c'est par amour que nous pouvons nous trouver dans cette salle aujourd'hui, qu'il y a des millions de chrétiens qui sont sur toute la terre, c'est parce que Dieu a un projet. Dieu a un projet. Nous sommes son peuple et nous sommes un peuple zélé pour des bonnes œuvres. Et là, c'est Dieu également qui provoque le vouloir et le faire. C'est vraiment que nous puissions vivre dans cet état d'esprit, dans cette attitude, de cet amour de Dieu incroyable qui nous a choisis. Alors qu'on se sent peut-être les derniers parmi les hommes, il nous a choisis, il nous aime et il a un projet pour nous. Il ne veut pas que nous restions avec nos géants, il ne veut pas que nous restions avec des autels dédiés à d'autres dieux dans nos vies. Il veut que nous puissions éliminer tout cela. Du reste, si on se rappelle Gédéon, au moment de son appel, la première chose que Dieu a demandé à Gédéon avant d'aller se battre contre les Madianites, c'était quoi? C'était de détruire l'autel où Dieu, c'était Astarté, un dieu étranger, qui trônait dans le jardin du père, de son père. C'est la première chose qu'il a dû faire. Il est allé éliminer de nuit, mais il l'a fait éliminer ce poteau. Alors que nous puissions vraiment être dans l'humilité et la reconnaissance pour ce que Dieu a fait, mais également que nous puissions aller de l'avant de la confiance, parce que Dieu a tout accompli. Dieu a tout accompli. Avec la confiance et puis également, comme je disais au début, avec courage et avec hardiesse, parce que nous avons des choses à faire, de l'ordre à mettre dans nos vies. Mais c'est avec Dieu que nous pourrons le faire. Et Dieu sera présent au milieu de nous. Je crois que pour que vraiment nous puissions entrer dans les temps dans lesquels nous sommes, eh bien nous puissions, les uns et les autres, et les uns avec les autres, nous souvenir que Dieu est avant toute chose et qu'il est après toute chose. Là, je vous montre une image, je ne sais pas si vous pourrez la voir, qui est assez saisissante. C'est ma femme qui me l'a rappelé. C'était dans 24 heures d'hier, à la page 4. C'est l'image, je ne sais pas si on arrive à voir, d'une ferme épargnée par le feu en Galice. C'est incroyable. Vous avez des forêts qui sont complètement détruites, qui sont complètement brûlées. Et puis, au milieu, il y a une propriété, un champ, où c'est encore vert, où il y a une maison qui tient debout, et puis qui est épargnée par le feu. Et je crois qu'en tant qu'Église, eh bien, Dieu veut nous épargner du feu qui est là. Il veut nous protéger de cela, alors que nous puissions vraiment le croire, le vivre et nous en saisir pour nos vies. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton œuvre que nous avons pu illustrer au travers du peuple d'Israël ce matin, mais qui nous rejoint dans l'Église, qui nous rejoint dans nos vies aux uns et aux autres. Alors je te prie particulièrement aussi pour toutes les personnes qui sont en difficulté avec des géants, qui souffrent de cela, qui sont peut-être dans le désespoir. Seigneur, afin que tu mettes ta main sur ces personnes, afin que tu les touches, afin que tu les encourages, que tu leur montres des lueurs d'espoir, parce qu'avec toi, il y a l'espérance, et que, eh bien, ils puissent reprendre courage, aller de l'avant, que ceux qui ont de la peine avec des péchés qui sont en eux, eh bien, Seigneur, tu leur montres aussi, par ton amour, que tu les aimes et que tu veux les aider à se débarrasser de cela, parce que tu as vaincu tout cela à la croix, Seigneur Jésus. Alors, merci d'être avec chacun d'entre nous, et en particulier avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont le plus dans la difficulté. Tu les relèves encore ce matin. Tu touches les cœurs ce matin et tu les relèves. Qu'il n'y ait personne qui sort de cette salle en se disant, mais oh là là, c'est lourd tout ça. Non, Seigneur, que tu montres la légèreté qu'il y a avec toi. Tu nous as libérés de l'esclavage pour la vraie liberté. Tu nous as sortis de l'esclavage du péché, de notre Égypte, de nos pharaons. Tu nous as libérés pour que nous puissions être entièrement libres. Alors Seigneur, merci d'agir, merci de nous mettre en marche aussi par rapport à cela, que nous puissions saisir ces vérités, se les approprier et avancer avec foi, avec confiance, avec le zèle de l'Évangile, avec ta parole également. Merci mon Dieu pour ton œuvre encore. Amen.